L'épître aux Romains. L'épître aux Romains. On avait commencé le chapitre 11. Chapitre 9, excusez-moi. Et on va reculer un peu, puisqu'on va revenir dans le chapitre 8 pour commencer notre. On va faire un peu de lecture dans le chapitre 8. Nous remettre dans le contexte de ce chapitre 8. On va lire à partir du verset 28, Romains 8, à partir du verset 28. Romains 8, 28, je lis dans la seconde 21. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Ce qu'il a déclaré juste, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Verset 33. Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les a déclarés justes, qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis, destiné à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous répondons tous avec lui, Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Les chrétiens, des immenses privilèges, hein. Vous avez vu notre texte ici. Il est question d'être toutes choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais qui peut dire ça? L'assurance de toujours que rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Toutes ces choses-là qui sont tellement grandes, tellement immenses, tellement précieuses, que même si on nous conduisait aujourd'hui à la mort, on serait... rien à faire de tout ça. J'ai beaucoup mieux. J'ai beaucoup mieux que ma propre vie. Oui, on arrive à la fin de ce chapitre 8. Mais il y a quand même là des questions qu'on peut se poser. Je pense que l'apôtre Paul, c'est là, ils vont quand même se poser des questions. Ok. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi j'ai été appelé, moi? Et pourquoi pas l'autre? Pourquoi l'autre, il n'est pas là? Pourquoi mon conjoint? Pourquoi ma famille? Pourquoi mes amis? Pourquoi mes collègues? Pourquoi les gens qui m'entourent? Pourquoi qui ne sont pas avec moi. Pourquoi je ne partage pas ce que je partage, ce que je vis? On peut se poser cette question, n'est-ce pas? Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Il y a une autre question qu'on ne veut jamais dire, mais qui est, je crois, souvent inconsciente. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ, je le crois. Mais si Dieu ne m'aimait plus un jour, et si je ne lui plais plus, c'est quelque chose, si je le déçois, s'il me rejette, est-ce qu'il est toujours capable de m'aimer malgré mon péché? Et puis on pense au peuple juif. Est-ce que Dieu n'a pas échoué avec le peuple juif? C'est la situation que pouvaient se poser les chrétiens païens à ce moment-là. Pourquoi? Voilà, il y avait le peuple qui était le peuple élu, et voilà maintenant, ils sont devenus des ennemis, mais on ne comprend plus. Dieu n'a-t-il pas échoué avec le peuple juif? Ces questions sont sans doute légitimes. C'est des questions auxquelles Paul va répondre, je pense. Du moins, on trouve des réponses, peut-être pas toujours celles qu'on voudrait trouver, mais Dieu répond à ces questions dans les chapitres qui suivent, les trois chapitres qui suivent. Et on a commencé déjà à voir ça. Ce matin, on va s'intéresser est-ce que Dieu a échoué? Est-ce que Dieu a trébuché avec le peuple juif? Est-ce qu'il a un échec là? On va lire la suite de notre texte maintenant. Les 13 versets suivants du Romains chapitre 9. Je dis en vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse, j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui. Je voudrais être moi-même maudit, séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est béni au-dessus de tout. Dieu béni éternellement. Amen. Verset 6. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Non. Car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, il est dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont les enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. La parole que voici était en effet une promesse. Je reviendrai à la même époque et Sarah aura un fils. De plus, tel aussi a été le cas pour Rebecca, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés, n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix, et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle, quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. De même, il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté ou j'ai haï Ésaü. Est-ce que la parole de Dieu est tombée? Est-ce qu'elle a failli concernant le peuple juif? C'est la question du verset 6 et c'est la réponse qui suit immédiatement, non. Non, Dieu n'est pas en situation d'échec avec le peuple juif. Et bien sûr, après, il va étayer sa réponse. Il propose un premier argument. Dieu n'a pas failli ou ne faillit pas, car tous les juifs ne sont pas les enfants de la promesse. Dieu avait promis à Abraham une descendance aussi nombreuses que les étoiles du ciel. Et puis il y a eu Ismaël, l'enfant de la chair. Sarah, qui était stérile, elle se culpabilise de ne pas pouvoir arriver à accomplir la promesse de Dieu. Elle se voit comme un obstacle à la promesse de Dieu. Dieu ne peut pas faire sa promesse à cause de moi. Voici que l'Éternel m'a rendue stérile, dit-elle à son mari. Aie des relations avec ma servante. Peut-être aurai-je des enfants par elle. Genèse 16, 2. Et Sarah et Abraham, son complice ici, ils ont de vouloir accomplir la promesse de Dieu. Et le résultat, donc, c'est Ismaël. Jusqu'à aujourd'hui, l'actualité nous le rappelle de façon dramatique, ce qui se passe. On écoute tous les infos. Ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël, bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. Et la parole que voici était une promesse. Je reviendrai à la même époque. Sarah aura un fils. Bon, ça c'était pour les Juifs et pour nous. L'histoire du christianisme, les hommes ont voulu beaucoup et absolument que des personnes naissent de l'esprit. C'était important et c'est peut-être aussi important pour nous. Hier, on était à Clermont-Ferrand avec la rencontre du Massif Central et j'ai rencontré un frère qui venait de Mende et qui s'appelle Bruno, et il s'est converti là à Mende. Il était devenu grand, 40 ans. Il s'était marié avec une femme, une jeune femme, qui dans le passé s'était converti, mais qui s'était complètement éloigné. Et voilà que le Covid est arrivé, et puis il y a eu un grand réveil. Cette personne s'est réveillée tout à coup, et bien sûr, tout à coup réalisé que le Seigneur il fallait absolument, voilà, son mari se convertisse. Elle lui a fait beaucoup de pression. C'est pas ce qu'il a amené au Seigneur, a-t-il dit. Il n'empêche que voilà que c'était quand il était garçon, il était grandi avec le fils du responsable de l'église de Mende. Il le connaissait très bien et c'était vraiment un enfant de Mende. Je ne sais pas comment on les appelle. On ne doit pas les appeler les Mendiens ni les Mendianites. Je ne sais pas. En tout cas, là, une personne qui habitait Mende s'est convertie. Moi, quand j'ai entendu ça, j'étais jaloux. Mais pourquoi à Mende ça se produit? Pourquoi ça se produit pas à Figeac ici? On voudrait tant qu'il y ait des gens de Figeac qui sont nés à Figeac, qui grandissent à Figeac, qui viennent. Voilà, qui se trouve l'église à Figeac, qui trouve le Seigneur à Figeac. Quelle belle histoire ça ferait! Et on peut être tenté de fermer les yeux quand on voudrait tellement pousser les gens à venir à l'église. Ah. Et on comprend peut-être nos frères du passé qui ont bricolé là. Le pédobaptisme, vous savez, c'est pas tellement dans la Bible ça, mais voilà. L'idée de... On va faire le baptême, et puis, voilà, l'enfant recevra le Saint-Esprit, alors qu'il est tout petit, et voilà, il rentrera dans la famille, comme ça, il sera chrétien. Et ça a fabriqué des chrétiens de nom. Et les détracteurs du christianisme disent maintenant, c'est ça le christianisme, et puis vous savez, on nous reproche toujours les croisades, ça nous suit comme un truc. Voilà. Et en fait, il s'agissait là de chrétiens qui correspondent un petit peu aux Israélites, qui ne font pas partie de la descendance d'Abraham selon la promesse, des chrétiens qui ne font pas partie des chrétiens selon le Saint-Esprit, pas nés de Dieu, mais nés des hommes, de la volonté des hommes. Alors bien sûr, dans l'histoire d'Israël, on voit ce problème, par exemple, avec les ennemis de David. David avait beaucoup d'ennemis, lui qui était aimé du Seigneur. Et les ennemis où ils se trouvaient parmi son peuple. C'était des gens, d'autres Israélites qui étaient autour de lui. Et puis après, on voit deux royaumes. Le royaume du Nord, le royaume du Sud. On voit bien qu'il y a des problèmes là. Tous les Juifs ne sont pas des enfants de la promesse, nous dit Paul. C'est son premier argument. Pour lui dire, non, c'est pas Dieu qui a failli. C'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas selon la promesse de Dieu, simplement. Et son deuxième argument, Dieu ne faillit pas, car tous ne sont pas élus. Ils ne sont pas connus d'avance, ils ne sont pas prédestinés avant la fondation du monde, comme on a lu dans notre texte. Et là, ça nous renvoie à Ésaü, l'enfant qui n'a pas été retenu. Tel a été le cas pour Rebecca qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants, deux jumeaux, n'étaient pas encore nés, qui n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix et sans dépendre les œuvres de celui qui a appelé quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Deux jumeaux se disputent dans le ventre de Rebecca avant qu'il n'ait fait quoi que ce soit. Avant même leur naissance, l'un était choisi pour la promesse et pas l'autre. Pourquoi? On ne sait pas. Pourtant, Jacob va être le moins sympathique des deux. Entre Ésaü et Jacob, c'est Jacob qui est le moins sympathique. Hein, c'est lui qui attrape le talon de son frère pour pas content qu'il soit né en premier. C'est lui qui tente de lui extorquer son droit d'aînesse, qu'il y arrive d'ailleurs. C'est lui qui trompe son père pour voler la bénédiction de son frère. Et Jacob, c'est l'enfant choisi. Alors, comme la belle-mère de Rebecca, Rebecca a mis tout un stratagème pour forcer la bénédiction de Dieu. Et comme pour Sarah, c'est une catastrophe. Hein. On a lu cette histoire au printemps. La haine s'invite dans la famille. Et puis, la famille éclate, Jacob doit fuir et tout semble perdu. Pour l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham concernant sa postérité, tout semble perdu dans cette famille quand elle se désintègre. Mais Dieu a choisi Jacob. Jacob a reçu de son père Isaac la bénédiction d'Abraham en Genèse 28:4 avant qu'il parte. Jacob rencontre Dieu sur le chemin du départ vers Padan Aram, il a la vision de cette échelle. Jacob lutte avec Dieu sur le chemin de retour de Padan Aram. Bob nous avait parlé de cette séquence. Et enfin, Jacob nous devient sympathique quand il s'avance à la tête de sa famille, cette fois-ci en boitant, pour s'humilier devant son frère. Qu'est-ce qui a motivé Dieu dans le choix de Jacob ? Paul dit qu'il a été sans doute connu d'avance, quand Romains 8, 29, le choix avait été fait entre les deux frères. C'est vrai que l'Épître aux Hébreux nous apprend que Ésaü s'est montré un profane, quelqu'un qui n'avait pas intéressé par les affaires de Dieu. C'était pas son centre d'intérêt du tout. Et il avait épousé là des femmes de Canaan, qui étaient des idolâtres, qui venaient de l'idolâtrie. Une fille d'Ismaël, la fameuse descendante selon la chair. Mais est-ce que Jacob méritait vraiment d'être l'élu de Dieu, lui qui avait, il n'avait vraiment pas été gentil avec son frère, avec son père, il s'était vraiment très mal conduit. Il ne mérite pas d'être l'élu de Dieu. Et s'il y a un enseignement qu'on doit tirer de ce passage que je vous propose par rapport à cette fameuse doctrine de l'élection, c'est qu'on ne mérite pas d'avoir été prédestiné. On ne mérite pas d'avoir été appelé. On ne mérite pas d'avoir été déclaré juste. On ne mérite pas d'être sur le chemin de la gloire. On ne mérite pas l'amour de Dieu en Jésus-Christ. On ne mérite pas d'avoir été prédestiné. On ne mérite pas d'avoir été appelé. On ne mérite pas d'avoir été déclaré juste. On ne mérite pas d'être sur le chemin de la gloire. Et on ne mérite pas l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il reste le verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Être élu, c'est être aimé. Ce texte m'a indiqué personnellement que l'amour de Dieu pour ses élus dépasse ce que l'on peut imaginer. Vous connaissez la vie d'Ésaü dans le texte de la Genèse. Et quand on voit la vie d'Ésaü, la haine de Dieu envers lui ne saute pas aux yeux. Hein. La bénédiction que son frère lui a volée ne lui manque pas. C'est avec puissance, avec force qu'il vient à la rencontre de son frère quand ils sont devenus beaucoup plus âgés. Et il déclare à son frère, « Je suis dans l'abondance, Jacob, garde ce qui t'appartient. » Sa descendance va devenir un grand peuple, le peuple de Édom, sur la montagne de Séir. Et quelqu'un qui est profane, en voyant la fin d'Ésaü, dira, « Bah, finalement, la haine de Dieu, c'est pas mal, hein. Moi, ça me suffit. Hein. » Mais si telle est la haine de Dieu envers Ésaü, combien plus grand est son amour? Si la haine de Dieu est confortable, comment on peut imaginer d'être l'objet de son amour? J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. L'amour de Dieu pour ses élus dépasse ce que l'on peut imaginer. Il y a notre face. La haine de Dieu pour les non-élus dépasse aussi ce que l'on peut imaginer. Parce que ce verset 13 est une citation du prophète Malachi, alors c'est un prophète, un des derniers prophètes de l'Éternel avant la venue de Jean-Baptiste. Du temps de Jérémie, donc, Jérusalem a été jugée à cause de son péché, le peuple a été massacré pour une partie, et l'autre partie déportée en Babylonie. Et 70 ans plus tard, Dieu fait revenir son peuple. Et un modeste temple est rebâti là, sous l'impulsion des prophètes Agé et Zacharie. Quelques années plus tard, les murs de Jérusalem ont été réparés, les brèches fermées du temps de Néhémie. Certes, il y a de la liberté religieuse à ce moment-là, mais la ville reste une ville secondaire, provinciale, on dirait, et elle est toujours sous la domination perse. Alors, ça n'a rien à voir à ce qu'était la Jérusalem d'avant. La situation est bof. Du moins, c'est un petit peu ce que ressentent les Israélites qui sont là-bas à ce moment-là. Voici ce qu'on lit dans Malachie chapitre 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Isaïe. N'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Et si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Qui les appellera? On les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz grand. Et l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Regardez la situation de votre propre pays, descendant de Jacob, et regardez la situation d'Édom, descendant d'Ésaü. Édom a été définitivement jugé et ne se relèvera jamais. Mais vous, vous êtes là. Vous considérez mon amour comme peu de choses. Comparez-le à ma haine. Comparez votre situation et votre avenir à celui de Édom. Et vous comprendrez que je vous aime si vous comparez les deux. C'est le miroir de la comparaison que je vous ai donnée tout à l'heure. Pierre exprime ça autrement. Il a écrit dans sa première lettre, chapitre 4, verset 18. Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie ou le pécheur? Donc Dieu n'est jamais défaillant. Ses enfants sont selon ce qu'il a promis. Il les a choisis en fonction de ce qu'il a promis et dans son amour. Quelle implication? Trois choses que je voudrais souligner. Je l'ai déjà dit, on ne mérite pas d'être élu. Hein. On ne mérite pas ça. Deuxièmement, la vie des élus n'est pas un paradis, mais elle le deviendra. La vie des non-élus n'est pas un enfer, mais il le deviendra. Troisièmement, on doit être tellement heureux d'être dans la famille de Dieu selon l'Esprit, c'est-à-dire d'être né du Saint-Esprit. Sachant qu'il y a une autre famille de Dieu selon la chair, née de la volonté humaine, mais combien on doit être heureux d'être dans la famille de Dieu selon l'Esprit, avec toutes ses promesses. Les questions restent. Quatre questions, je vois, qu'on peut se poser encore, mais on n'a pas la réponse. Du moins, notre texte ne l'a pas souligné. Comment savoir si on est un élu? C'est peut-être quelque chose qui est important. Bon, dans le Romains chapitre 8, il donne de bonnes instructions là-dessus. On sait qu'on est élu par la présence du Saint-Esprit en nous. C'est le marqueur, c'est le Saint-Esprit. Comment devenir un élu? Alors ça semble pas de sens, hein. Comment devenir un élu? Dieu a fait des promesses. Et c'est sur la base de ces promesses qu'il y a des élus. Et Paul va expliquer bien cela un petit peu plus loin au chapitre 10. Comment on peut devenir élu? Il donne les clés. Dieu est-il injuste en appelant que certaines personnes? Est-ce que Dieu est injuste d'avoir appelé Jacob et d'avoir laissé Ésaü? C'est la question qu'aborde Paul dans le texte qui suit. Donc, je vous renvoie à la suite du texte pour avoir la réponse que nous propose la Bible, du moins à cet endroit-là de la parole de Dieu. Et la quatrième question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour qu'il y ait plus de personnes qui soient appelées, qui soient élues? Parce que oui, c'est la volonté de Dieu qu'il y ait plus d'élus. Alors les élus, ils ont une mission d'être des témoins de Jésus. On en a parlé tout à l'heure dans notre culte, on a prié pour ça. Pour parler de lui, pour attirer à lui, pour donner envie de lui, pour rendre jaloux de lui. Et tout ça est également... On a rendez-vous pour tout cela au chapitre 10. Donc, il y a une suite au message de ce matin. Le texte ne s'arrête pas là. Il y a une suite dont il va falloir se saisir pour avoir une réponse plus complète. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous propose, j'avais prévu 3 chants. Il y a un chant qui est un peu difficile, donc je ne vais pas vous le chanter, mais je peux vous le faire écouter. Je suis aimé, c'est un chant de la très québécoise et toujours célibataire Laura Gagné. Ensuite, on pourra chanter le rechanter, excusez-moi, chant qu'on a déjà choisi tout à l'heure, J'ai envie de crier. Et on terminera par l'amour de Dieu, le chant 301. Seigneur, j'ai bien abordé des textes qui me semblent bien difficiles et qui peuvent être réveillés des vives douleurs dans notre cœur par rapport à notre foi et par rapport au désir dans nos cœurs que cette foi puisse être partagée par tout ce que nous aimons. Et Seigneur, merci parce que tu es un grand Dieu et qui est fidèle à ses promesses et qu'on peut venir toujours frapper à ta porte. Et Seigneur, merci de ce que tu nous as fait grâce. Merci de savoir que tu veux faire grâce aussi à d'autres. Toi qui as été si patient avec nous, tu es aussi patient envers les autres. Et merci de faire de nous ces témoins utiles et efficaces dans ta main pour que ton plan d'amour puisse, ton amour puisse se répandre comme tu l'as prévu de toute éternité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.